Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, quelle joie de vous retrouver. C'est une journée de grâce et on demande au Seigneur de déverser toutes ses grâces pour la santé de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Vraiment, Seigneur, cette journée, merci de faire des miracles. Merci de transformer nos vies, transformer notre cœur. Nos personnes. Plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui avec la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui serons là encore pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Nous avons entendu ce magnifique passage de la première épître aux Thessaloniciens qui nous dit, saint Paul nous dit, ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous allons parler aujourd'hui de l'espérance. Alors, l'espérance est une des trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Qui nous permet de transcender notre vie ici-bas et de nous greffer directement, de nous brancher directement sur les réalités d'en haut, sur Dieu. La foi nous fait croire en Dieu directement, en sa parole, en sa révélation, en ce qu'il dit. Appuyé, attesté sur la véracité de la révélation, sur Dieu qui est vérité, sur la véracité de sa parole. Espérance qui tombe dans notre cœur, non pas dans notre intelligence, mais dans notre volonté humaine, va faire deux choses. Ça va nous soulever. Comme la foi d'ailleurs nous soulève, et comme la charité bien sûr. Ça nous soulève pour nous porter vers. Ça nous donne un élan extraordinaire, l'espérance. Comme dit l'Écriture, dans un passage magnifique que j'aime beaucoup et qui se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Frères et sœurs, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes épuisés? Est-ce que votre force se renouvelle? L'espérance nous donne une force d'élan extraordinaire. Nous sommes dans un temps où notre espérance est mise à l'épreuve, parce que d'un point de vue humain, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne super bien en ce moment. Nous avons des contrariétés, nous avons des limitations de liberté. C'est très compliqué d'un point de vue humain pour un jeune aujourd'hui de se projeter dans l'avenir, de faire des projets professionnels, des projets matrimoniaux, de se projeter dans l'avenir. Très compliqué. Ah, ils se disent, après le Covid-19, il y aura un Covid-20, Covid-21, Covid-22. Ah, il y aura 2 mois de soupape et puis on va repartir comme en 2020. Confinement, etc., etc., etc. Nous voyons bien que les populations dont nous faisons partie dépriment. Il y a une immense fatigue. C'est le moment de réveiller, de raviver en nous, en nos cœurs, l'espérance qui ne déçoit pas, nous dit saint Paul. L'espérance ne déçoit pas en Romains 5,5 parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Regardons un petit peu nos fatigues. Regardons un petit peu notre lien à l'avenir. C'est pourquoi je vous ai pris, pour commencer cette catéchèse, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 jusqu'à 18. Notre avenir, c'est quoi? Notre avenir, c'est qui? Alors, vous comprenez que d'un point de vue simplement humain, sans avoir la foi et d'espérance, on se dit, notre avenir, c'est la maladie, l'isolement, une petite vie triste, et puis pas beaucoup de projets possibles. Et puis ça va aller de mal en pis. À quoi bon espérer si tous nos espoirs, tous nos projets tombent à l'eau, tout le temps? On ne sait pas bien. On réserve des billets d'avion, mais bon, on ne sait pas bien. Bon. Ça, c'est vivre sa vie d'un point de vue humain. Sans nous laisser emporter par l'espérance. Il faut absolument que ce soit l'espérance qui emporte tout. C'est d'une puissance qui emporte tout, qui ne nie pas nos projets humains, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on a l'espérance chrétienne qu'on ne va pas avoir des projets. Mais ce n'est pas parce que nous avons des projets humains qu'il nous faut oublier l'espérance. C'est trop dommage. C'est à l'espérance de donner le ton dans notre vie. Qu'est-ce que nous espérons? Dans le sens espérance chrétienne, qu'est-ce que nous espérons? Dans le domaine des espoirs humains, nous en avons plein. Nous avons plein de projets. Difficile à atteindre. mais qui repose aussi sur des moyens humains pour les réaliser. Et sur des conjonctions favorables. Ouverture de frontières. Possibilités financières. Etc., etc., etc. Et donc, tout ce qui est d'ordre humain et qui repose sur des moyens humains, ça reste assez fragile. Et c'est normal. Si nous mettons notre énergie uniquement dans ce qui est humain dans notre vie, on sera toujours déçu. Parce que le réel n'est jamais comme on l'a imaginé, comme on l'a projeté. Jamais. Notre projet, c'est toujours un idéal à atteindre. Alors, quand ça marche, on est content. Et quand ça ne marche pas, on est triste. Pour telle ou telle raison. Parce que, voilà, il y a telle ou telle chose qui n'a pas fonctionné comme on avait prévu. Il nous faut résolument nous enraciner dans l'espérance chrétienne. Pour que cet élan que nous donne l'espérance transcende encore une fois toutes les adaptations nécessaires au réel dans nos journées quotidiennes. Et quand ce qu'on a prévu ne marche pas, qu'on ne se mette pas, que ce soit pas la fin du monde tout de suite, voyez? Pourquoi? Ben parce qu'on est porté par une autre force, une puissance d'en haut, qui nous porte vers Dieu. Alors, quel est notre avenir? Qu'est-ce que nous projetons? Est-ce que notre avenir, c'est Dieu? Est-ce que notre avenir, c'est le ciel? Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, je vais vous dire ce qui est à venir. C'est Dieu. Dans notre vie personnelle, notre avenir, c'est Dieu. C'est ce face-à-face. C'est la vision béatifique. C'est le ciel, en passant peut-être par le purgatoire. Mais le purgatoire est orienté d'une manière inexorable vers le ciel. Ceux qui sont au purgatoire iront d'une manière certaine au ciel. Alors, notre avenir, si nous vivons nos journées quotidiennes avec ça dans le cœur, mon avenir, Seigneur, c'est toi. Je me prépare au ciel. Je me prépare à mon éternité. Ma vie d'ici-bas, ma journée d'aujourd'hui, elle est connectée à mon éternité. Alors, on voit bien l'importance capitale, salutaire, de l'espérance. Car il y aura ce moment béni de notre mort. Oui, ce moment béni, je dis, de notre mort, parce que pour nous chrétiens, c'est la rencontre avec celui qui nous a aimés le premier et qui nous a préparé une place et qui reviendra nous prendre avec lui. Alors il y aura ce cœur à cœur, ce que l'Église appelle le jugement personnel, le jugement particulier. On fera le point, comme on dit. Mais on fera le point entre celui qui nous a aimés le premier, qui n'a cessé de nous aimer, est la réponse que nous donnons à cet amour et à cette miséricorde. Car lorsque notre péché est dévoilé, il nous faut toujours avoir ce réflexe de l'humilité pour dire oui, je reconnais. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mon orgueil en pensée, en parole, par action et par omission. Je reconnais que sans ta miséricorde, je suis voué à la damnation. Alors j'accueille cette miséricorde infinie. Je crois en ta miséricorde et j'espère en ta miséricorde. L'espérance repose sur la toute-puissance de la miséricorde infinie du Seigneur. Car bien sûr, si je me repose sur mes petits moyens encore à moi, j'espère avec mes petites vertus humaines aller au ciel. Ben non, c'est pas avec nos vertus humaines qu'on va au ciel. C'est pourtant bien des vertus humaines, oui. Mais ça ne sauve pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il va au ciel. Ben non. On ira tous au paradis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne va au ciel que parce que nous nous sommes jetés dans les bras de celui qui est miséricordieux. Infini miséricordieux. Dans la toute-puissance de la miséricorde divine. Alors il faut reconnaître son néant, son péché, et reconnaître. Ne pas nous arrêter à notre péché une fois qu'on l'a reconnu, mais se jeter dans les bras de la miséricorde. Alors est-ce qu'on va attendre le dernier moment de notre vie ici-bas pour vivre ça? Non. Chaque jour je meurs, dit saint Paul. Donc chaque jour, je me prépare un jugement particulier, personnel. Comment? Eh bien, comme au début de la messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons sa miséricorde. À chaque fois que nous tombons, nous nous relevons. Pourquoi? Parce que nous nous disons que le Seigneur est plus fort que notre péché, vainqueur de notre péché avec sa miséricorde. C'est le fait que nous continuons à être aimés avec nos misères qui nous donne cet élan. Si Dieu ne nous fait pas miséricorde, nous n'avons plus aucune force. Pourquoi se lever le matin si nous ne sommes pas aimés d'un amour miséricordieux? Pourquoi nous lever le matin si Dieu nous condamne? À quoi bon? Quoi que je fasse, je serai condamné. Alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et puis, ben voilà, le Christ n'est pas ressuscité, pas victorieux, pas miséricordieux, donc finalement, je fais ma vie. Mais poussé par le désespoir, mu par le désespoir. Tandis que si je me lève le matin en disant « Mais Seigneur, merci de m'aimer », avec mes limites, avec mes fragilités, avec ma misère et mon péché, et je m'appuie sur la toute-puissance de ta miséricorde infinie, ça donne un élan. Regardons comme nous sommes reconnaissants envers les êtres humains qui nous pardonnent, qui nous ont pardonnés. Regardons comme enfants, lorsque nos parents nous ont pardonné, cela nous a donné une force. Dans l'amitié, quand quelqu'un nous dit « je te pardonne », lorsque nous avons reconnu nos fautes, parce qu'il y en a, ils ne reconnaissent jamais leurs fautes. Hein. Voilà. Demande jamais pardon. C'est un dommage de ne jamais demander pardon. Alors, frères et sœurs, on voit bien que l'espérance, il y a un lien indissociable entre la miséricorde de Dieu et l'espérance. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que dans nos journées quotidiennes, nous pouvons avancer au milieu de tout et au milieu des épreuves. C'est la grande force que Dieu nous donne au milieu de nos épreuves, c'est l'espérance. Au niveau personnel et au niveau collectif. Au niveau collectif, aussi, nous allons vers la rencontre avec le Seigneur. Nous avons entendu dans le passage que je vous ai lu aujourd'hui, notre avenir collectif, c'est quoi? C'est la venue de Jésus dans la gloire. C'est la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons la venue de Jésus dans la gloire. Voilà le deuxième aspect que nous donne l'espérance. C'est l'attente amoureuse du bien-aimé, qu'on ne voit pas encore, mais que nous aimons déjà. Et comme nous l'aimons déjà, nous le désirons. Nous désirons voir le visage du bien-aimé, d'un point de vue personnel. Et puis il y aura ce moment, au milieu de la nuit, un cri se fait entendre, voici l'époux qui vient. Et alors là, on a intérêt à faire partie des vierges sages, qui ont suffisamment d'huile. Et on a intérêt à ne pas faire partie des vierges insouciantes, sottes, plusieurs traductions possibles, qui n'ont pas assez d'huile et qui doivent aller acheter en pleine nuit chez le marchand de l'huile. L'espérance nous fait attendre, comme un veilleur sur les remparts de Jérusalem et qui attend la venue du Messie pour Israël. Mais nous, chrétiens, qui portons le Messie en nous, qui avons l'onction du Messie en nous, eh oui, nous avons l'espérance chrétienne. Non pas que le Messie vienne une première fois, mais qu'il vienne manifester sa gloire, qu'il vienne illuminer tous les cœurs, manifester son amour. Nous attendons une Pentecôte d'amour sur ce monde. Vous inquiétez pas, les transhumanistes, tous les idéologues qui veulent une humanité augmentée, ben ils vont pas gagner, bien sûr. Bien sûr. Parce que le Seigneur va manifester sa gloire, sa victoire. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents parce que tous ceux qui auront mis leur espoir dans leurs petits moyens financiers, dans leurs petits moyens humains pour dominer le monde, pour engranger encore plus d'argent, eh ben, ils vont beaucoup pleurer, ils vont beaucoup crier. Ils seront choqués. Ça va être très violent. Très, très violent. Et pour ceux qui sont avec le Seigneur, ça va être juste, qui sont déjà avec le Seigneur, ça va juste être un régal, une joie, une allégresse. Car lorsque la fiancée attend son fiancé, eh bien lorsqu'elle voit le bout de son nez arriver, eh bien elle est toute heureuse. Saint-Pierre nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Le Seigneur nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance. Et cela doit nous donner une grande consolation, un réconfort, surtout si nous sommes dans l'épreuve physique, dans l'épreuve psychique. Tout cela ne dure qu'un temps, un temps très court, même si cela peut nous paraître interminable. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas, dit ce même Saint Paul en 2 Corinthiens 4. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. Vous voyez, il y a tout ce qui se voit, il y a tout ce qui se dit, il y a tout ce qui se montre à travers tous les médias, etc. Et ce qui est assez trié, d'ailleurs, parce que c'est une certaine manière de voir le monde et ce qui se passe. C'est une certaine manière de rendre compte de la réalité, mais une manière. Mais il y en a d'autres. Et alors, il y a une autre manière de voir la réalité. C'est vue de Dieu. Ah oui, alors vue de Dieu, c'est magnifique. Vue de Dieu, c'est, chers enfants, ne vous inquiétez de rien. Vue du démon, c'est « Ouh, inquiétez-vous de tout !» C'est la cata. Vue de Dieu, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8, 18. Nous sommes dans un temps, une période où l'espérance, je pense, est comme jamais importante, salutaire. Et on voit autour de nous, en nous, à côté de nous, déjà nos propres faiblesses, et puis on voit des gens qui claquent, qui ne tiennent pas, et qui n'ont pas d'espérance, et qui désespèrent. Pour eux, pour ces personnes qui nous sont confiées, pour ces frères et sœurs qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent plus, redoublons d'espérance. Cette espérance qui nous porte dans nos épreuves et nos difficultés, comme dit saint Paul. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, que dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Et dans un autre passage, ce même saint Paul nous dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» La tribulation ? L'angoisse ? La persécution ? La faim, la nudité, les périls, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors vous voyez, frères et sœurs, si c'est l'amour du Christ notre trésor, on ne sera jamais déçu. Si c'est autre chose qui est au-dessus de l'amour de Dieu, on sera toujours déçu. Mais si c'est l'amour du Christ, notre trésor, eh bien, ça va nous permettre de traverser nos difficultés, appuyés sur la force de l'amour du Seigneur, de l'amour miséricordieux du Seigneur, et sur la force que nous donne l'espérance. L'espérance comme vertu théologale qui vient de Dieu, un don de Dieu. On ne produit pas l'espérance par nous-mêmes, c'est un don de Dieu, et on pratique l'espérance pour grandir dans l'espérance. Et l'espérance qui a pour objet Dieu, le ciel, la béatitude. Combien de fois la Gospa Medjugorje nous rappelle, petits enfants, vous êtes de passage ici-bas sur la terre, vous êtes en pèlerinage, vous êtes fait pour le ciel. Se faisant l'écho de saint Paul, mais recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Arrêtez de regarder vos orteils. Bon, ça c'est moi, je traduis, traduction libre. Hein. On voit bien que ce sont des grosses, grosses purifications dans nos vies personnelles. À chaque fois qu'on met des réalisations terrestres, matérielles, au-dessus de l'espérance chrétienne, de la vraie espérance, on tombe dans le messianisme, comme on dit, terrestre, vous voyez. Et on se dit, bon, ben, on a une terre à gérer, des ressources, une population, et puis on va gérer tout ça, quoi. Hein? Bon? Ben non, c'est pas ça. C'est que la terre et le marchepied du trône de Dieu. Si on oublie ça, on n'a plus le sens de la terre. Si on oublie Dieu, on ne sait pas ce que c'est que la planète, tout simplement. Alors, on va se dire, ben, il y a de plus en plus de milliards d'êtres humains, et puis les ressources sont limitées, donc cherchons à faire quelque chose pour, quand même, soi-disant, sauver la planète. Mais en fait, c'est pas la planète qu'on veut sauver. C'est son porte-monnaie, simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en Dieu et qu'on n'espère pas en Dieu. On a oublié que c'est le Seigneur qui est le Créateur. Le Créateur, ce n'est pas comme dans le déisme de dire, ben voilà, il y a une chiquenaude initiale, un horloger grand qui a fait un truc super qu'on appelle le cosmos, l'univers, la planète, et puis qui a dit, bon ben débrouillez-vous, hein? C'est pas ça. C'est pas ça être créateur. Nous, notre foi, on dit je crois en Dieu, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Le créateur, la création, c'est maintenant. C'est actuel. Actuellement, Dieu agit, Dieu crée. Actuellement, Dieu agit dans la création. C'est un lien actuel. On n'est pas déiste. Alors, si nous croyons que Dieu agit, est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter? Ben non. Désolé, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On peut s'inquiéter s'il y a une force suprême énergétique qui a donné une impulsion initiale et puis qui s'en fiche complètement de nous, là, oui, et puis qu'on est livré à soi-même, et en plus à des gens qui sont très 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 puissants, et puis très 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 pas très gentil, hein, voilà, dominateur, etc., etc. Bon, là, il y a de quoi s'inquiéter, bien sûr. Mais si c'est Dieu notre Créateur, si c'est Dieu notre Providence qui pourvoit, eh ben, je vous dis franchement, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter pour notre vie personnelle et pour notre vie collective. Mais c'est une grande purification, parce que nous devons reconnaître que nous mettons encore trop nos espoirs dans des choses qui ne sont qu'humaines, dans nos projets qui ne sont qu'humains. On oublie l'espérance. On oublie de vivre avec. C'est le maillon faible, j'allais dire, des trois sœurs des vertus théologales. La foi, ouais, on veut bien avoir la foi. La charité, ouais, on veut tous aimer de charité. Ouais. Espérance, hein? Nous sommes dans un grand temps de purification personnelle et collective, parce que nous pensons que la terre est à nous, mais sans Dieu. Alors, nous sommes devenus des gestionnaires. On s'est pris pour la providence, sans Dieu. Alors on domine, comme il y a le péché, eh ben on domine. Au lieu de servir. L'espérance vient nous purifier pour que vraiment nous vivions notre vie ici-bas à la hauteur à laquelle Dieu nous attend. Contrairement à la hauteur, c'est-à-dire à la bassesse dans laquelle le démon nous maintient. Tout le temps, le démon dit aux hommes, mais non, il n'y a pas de Dieu, regarde. S'il y avait Dieu, il penserait à toi, il agirait pour toi dans ta vie, tout ça. Regarde le mal, regarde la souffrance, mais Dieu n'existe pas. Allez, essaye de te débrouiller par toi-même, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est pas dans la Bible, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, non. C'est pas dans la Bible, c'est anti-foi en la providence. Je ne sais pas d'où ça sort, cette expression païenne. Aide-toi, le ciel t'aidera. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le démon nous rabaisse, nous humilie. Tout le temps, il nous fait penser que il n'y a rien au-dessus du plafond qui est si bas. Ce sont les grandes attaques actuelles. C'est contre l'espérance. Parce que l'espérance, encore une fois, nous donne une force. Nous donne un élan, nous fait attendre le bien-aimé, nous fait traverser les épreuves. Et on comprend alors que c'est un haut lieu d'attaque démoniaque. Pour que nous continuions à garder des petits espoirs, mais dans des domaines humains et le plafond est bas, et puis on sera content si on arrive à un petit quelque chose en plus. Mais. Et puis on finira cette vie en disant ben ouais, j'ai bossé toute ma vie. Ah d'accord, ça a été ça ta vie. Bon. Seigneur, libère, fais exploser les plafonds bas de nos vies, de nos cœurs, car le plafond, la hauteur du plafond, elle est dans nos cœurs d'abord. Fais exploser les hauteurs du plafond. Fais-nous redécouvrir que nos cœurs sont des cathédrales, mais très très hautes, vous voyez, très très hautes, avec des vitraux magnifiques, et que nous sommes faits pour respirer à plein poumon le bon air du Saint-Esprit, que nous sommes libres, que nous sommes orientés vers toi, notre avenir, car tu es notre origine. Et notre avenir, Seigneur, et notre cœur espère en toi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.